accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'accès libre. Canada Accessible met en lumière les besoins des personnes en situation de handicap pour faire une loi qui reconnaîtra davantage nos droits. Donc, on va faire un tour d'horizon, des consultations avec Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la COFAM. On jette de la lumière sur plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs groupes en fait. Trois récipiendaires de prix remis par Altergo. Et en fin d'émission, Marie-Claude Lépine, conférencière slameuse en situation de handicap. Notre chroniqueur Miguel Ross nous permet de nous démêler avec des GPS et dans quelques instants, les jeunes aveugles veulent aussi entrer en scène. Donc on verra comment l'Institut Nazareth et Louis Braille aide ces jeunes à explorer le marché du travail. Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Dans une enquête menée par l'INCA durant le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées, on apprenait que 7 employeurs sur 10 préféraient employer une personne voyante. Donc, de part et d'autre, il est nécessaire de se rencontrer pour peut-être faire un marché du travail plus inclusif pour les personnes aveugles. Donc, on salue les initiatives pour y arriver et une de celles-là, Vision Carrière, nous est présentée aujourd'hui par Nathalie Thibault de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Bonjour Nathalie Thibault.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci, ça me fait plaisir.
Donc, comment vous avez identifié que les jeunes aveugles avaient besoin d'une activité d'exploration en milieu de travail?
Mais dans le fond, on avait entendu parler de la recherche que vous avez parlé.
Oui.
Donc, on trouvait important d'offrir aux jeunes la possibilité d'aller explorer le monde du travail,
ouais,
puis d'essayer une profession qui les intéressait, donc pour favoriser la réussite de leur intégration professionnelle.
OK. Puis vous avez approché Montréal Relève de la Chambre de commerce de Montréal en 2014, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc, pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une expérience de travail, là. Donc, on travaille en équipe avec Montréal Relève, puis il y a la Fondation en vue aussi de l'Institut Nazareth et Louis Braille qui nous donne un coup de main. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, là.
OK. Mais comment ça s'est passé, le début de ce projet-là?
Bien, dans le fond, on a recruté des jeunes, on les a rencontrés, puis on leur a expliqué un petit peu le programme. Donc, il y a eu une première cohorte là, de 6 jeunes en 2014.
Mm-hmm.
Puis l'an dernier, on a fait une deuxième cohorte. L'année passée, il y a eu quand même 12 jeunes qui ont participé au programme.
Okay.
Donc, c'est comme ça qu'on a commencé le tout.
Puis, vous êtes psychoéducatrice, là, pour que les gens comprennent bien là, votre intervention dans le projet. Vous travaillez avec ces jeunes et comment ils vivent ça, eux, précisément, cette exploration du marché du travail?
Bien, ça se passe très bien. En fait, chaque employeur nous remercie après l'expérience parce qu'il trouve que les jeunes, ouais, que les jeunes sont très intéressants.
Ouais.
Il y en a même un qui s'est fait offrir une petite job d'été pour l'été prochain.
Okay.
Donc les jeunes, ils trouvent ça très stimulant, puis c'est intéressant aussi pour eux d'aller explorer le monde du travail,
mm-hmm,
puis d'explorer une profession qui pourrait les intéresser plus tard. Puis ça les motive au niveau scolaire aussi.
OK, mais c'est quoi les professions? En fait, quel milieu vous avez exploré depuis le début du projet?
Alors, depuis 2 ans, là, il y a différents milieux qui ont été explorés. Il y a eu le droit, il y a eu les technologies de l'information et des communications, il y a eu l'intervention psychosociale, les arts, la comptabilité, les médias, l'orthophonie, la mode, la photographie, la massothérapie. C'est très diversifié.
Bon, c'est bien. Puis en fait, on pointe pas de marché en particulier, on part des aspirations des jeunes.
C'est en plein ça. On regarde c'est quoi qui les intéresse, c'est quoi qui les motive, puis dans quel domaine ils voudraient étudier plus tard, puis on part de ça, puis on essaie, Montréal Relève travaille à trouver des milieux là, en lien avec les motivations des jeunes.
OK. C'est un partenariat assez inusité. En fait, il y a Vision Carrière. Ce projet-là rallie la Fondation En Vue, Qu'est-ce que c'est cette fondation-là?
C'est la fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
OK.
Donc, eux nous permettent d'offrir le financement. Ben, dans le fond, ils financent le projet, là.
OK.
Donc,
Mais c'est des fonds privés amassés par la fondation, c'est ça?
Oui, c'est en plein ça.
OK. Il n'y aurait pas moyen d'accéder à des nouveaux fonds, là? Il y a des fonds disponibles par région maintenant, public ou par l'industrie. Est-ce que vous avez pensé améliorer l'amplitude du projet pour aller chercher en cherchant de nouveaux fonds?
Non, je crois qu'actuellement, là, avec la fondation en vue, ça répond bien, il n'y a pas de problème.
OK, bon, c'est bien. Donc, je voulais aussi préciser avec vous, c'est quoi les critères, si les gens nous écoutent en ce moment, les jeunes aveugles, par exemple, ou des jeunes en situation de handicap qui nous écoutent, c'est quoi les critères pour participer à votre projet?
Dans le fond, il faut être un étudiant actuellement en secondaire 3 ou secondaire 4.
OK.
Être atteint d'une déficience visuelle.
Mm-hmm.
Et puis, il n'y a pas d'autres critères. Donc, c'est vraiment les deux seuls critères, là, être en secondaire 3 ou secondaire 4, puis être atteint d'une déficience visuelle.
OK. Puis c'est vraiment pour lutter contre le décrochage. C'est ça l'objectif? C'est ce que je comprends?
Oui, oui, pour les motiver à poursuivre leurs études, puis pour leur montrer aussi que c'est possible d'être employé, puis c'est possible de réaliser ses rêves.
OK. Donc, le marché du travail de l'autre côté, parce que c'est important de parler de ça. Les jeunes peuvent avoir des rêves, les cultiver, mais le marché du travail, est-ce qu'il répond bien parce que ça prend des adaptations, etc.? Est-ce que ces expériences-là ont changé aussi les milieux de travail?
Bien, les nouveaux employeurs qui sont sollicités, ceux qu'on a sollicités l'été dernier, ça s'est tellement bien passé qu'ils nous ont dit que l'été prochain, ils étaient prêts à accueillir d'autres stagiaires.
Ah oui.
Donc, ça veut dire que c'est très prometteur. Les employeurs se rendent compte que c'est des jeunes qui ont des belles capacités.
Mm-hmm.
Puis, par la suite, qui sont employables. Donc, pour nous, c'est prometteur dans le sens où les employeurs se rendent compte que c'est possible d'engager des gens avec une déficience visuelle puis de Bien, dans le fond, les jeunes vont démontrer que c'est possible.
OK. Mais est-ce qu'il y a eu des adaptations qui se sont déployées là, dans ces milieux de travail-là?
Oui, les jeunes, avant, vont travailler avec une personne en orientation et mobilité.
Okay.
Donc, vont visiter les milieux, ouais. Tout ça, pour être capable de se repérer.
Okay.
À l'intérieur des locaux. Et aussi, il y a des adaptations là au niveau souvent informatique. Donc, l'adaptation du poste de travail souvent est faite au niveau informatique pour qu'ils aient accès à toute l'information dont ils auraient besoin au niveau visuel. Donc, par exemple, ils ont des documents, mettons qu'ils ont des documents à lire,
mm-hmm.
mais ça, il va avoir quelqu'un qui va adapter un poste de travail pour que soit les personnes puissent le lire en format agrandi ou puissent le lire en mode sonore.
Bon, donc votre projet Vision Carrière, rappelons que c'est en collaboration avec Montréal Relève et la Fondation
oui.
En Vue de l'Institut
mm-hmm.
Nazareth et Louis Braille. On retrouve l'information où sur ce projet?
Sur le site Internet de l'Institut Nazareth et Louis Braille, on en parle.
OK.
Si les gens à l'écoute ont des questions, ils peuvent toujours me rejoindre à l'Institut, il n'y a pas de problème.
Donc, on rappelle que vous êtes Nathalie Thibault, psychoéducatrice au programme Jeunesse à l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Oui, c'est bien ça.
Merci beaucoup, Mme Thibault.
Bien, merci, ça m'a fait plaisir.
Canada Accessible, vous savez que le gouvernement canadien est toujours en consultation en vue de faire une loi en 2018 pour l'accessibilité. Et nous avons besoin, disons, de faire une mise à jour avec ce qui se passe. Et pour mieux comprendre l'avancée des travaux, Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Bonjour, Audrey-Anne.
Bonjour.
Désolé, je pense que j'ai escamoté un petit Audrey, hein? À deux reprises.
Pas de problème.
On m'en veut pas. OK. Donc, vous le savez peut-être, enfin, les gens qui nous écoutent le savent peut-être, le 16 novembre dernier avait lieu au Palais des congrès de Montréal la consultation régionale. Comment ça s'est passé, Audrey-Anne?
Ça s'est bien passé à Montréal. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait eu la semaine précédente la même genre de consultation à Québec.
Oui.
Il y avait environ une trentaine de personnes, à ce qu'on m'a dit. Puis à Montréal, là, je vous dirais à l'œil qu'il y avait entre 150 et 200 personnes. Donc, on voit que c'est un sujet qui suscite l'intérêt.
Ben oui.
Puis il y avait autant des représentants d'organismes que des individus qui étaient là. Et une bonne représentation aussi de la communauté anglophone de Montréal.
Oui. Oui. Puis c'est important de le dire parce que très souvent, dans le milieu associatif, les personnes anglophones sont un peu séparées.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça a permis de faire des liens un peu? Est-ce que vous croyez que les groupes se sont davantage parlé de leurs préoccupations communes?
En fait, je vous dirais, moi, ce que j'ai remarqué au niveau de la communauté anglophone, c'était beaucoup des individus qui étaient là. Certains groupes, oui, mais c'était pas vraiment l'endroit là pour... je veux dire, il y avait beaucoup de monde dans la salle et tout le monde voulait intervenir.
Oui.
Donc, c'était pas nécessairement l'endroit pour aller réseauter, si on veut. Là.
Okay.
Mais il y a plusieurs personnes qui ont eu la chance de s'exprimer.
Je me permettrais peut-être de comparer parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires à l'endroit de la consultation à Québec, très positifs, même s'il y avait beaucoup de moins de gens. Est-ce que vous diriez qu'il y avait beaucoup de monde, mais peut-être un espace limité de prise de parole?
Oui, c'est ça, c'était très structuré. Il y avait des tours de parole, distribuait des numéros, donc il fallait attendre notre tour pour parler. Mais c'est sûr que quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est normal.
Mm-hmm.
Mais il y a pas eu, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, on n'a pas eu vraiment l'occasion de répondre aux commentaires qui étaient faits. Là, c'était pas vraiment un échange, si on veut.
Okay.
C'était plus à Montréal, en tout cas, là, c'était plus chacun peut s'exprimer à son tour. Tandis qu'à Québec, je sais qu'il y a eu peut-être plus un dialogue, un échange.
Bien, il y avait la présence d'un ministre, très important pour le gouvernement actuel, le ministre Duclos à Québec.
Oui, ce n'était pas le cas à Montréal.
Oui, parce qu'en fait, le ministre Duclos tient plus ou moins les corps de la bourse, avouons.
Oui.
Bon. Le directeur général de la COFAN, avec qui vous travaillez, avait mentionné la dernière fois, enfin en tout début de saison, alors qu'on annonçait le Canada Accessible, que le vrai défi allait être peut-être les réactions des entreprises privées. Est-ce qu'elles étaient présentes lors de cette consultation?
Lors de la consultation publique le 16, j'ai pas eu connaissance. Il y avait beaucoup d'entreprises. Il y avait le mouvement Desjardins qui était présent, qui est venu justement parler un peu des efforts qu'il avait fait et de comment ils voyaient que ça c'était bon pour eux et que c'était bon pour leur clientèle.
Okay.
Non, mais je pense que les consultations publiques comme ça étaient pas nécessairement destinées aux entreprises. C'était pas vraiment le forum pour elles. Puis on peut comprendre aussi que les entreprises n'avaient pas nécessairement l'élan de se présenter à ces consultations-là parce qu'ils savaient que c'était plus les gens qui allaient être présents.
Okay.
Mais il y avait des tables rondes d'experts également qui étaient organisées dans chacune des villes où il y a eu des consultations publiques. À Montréal, c'était le 17, donc le lendemain.
Mm-hmm.
Et c'était thématique. Donc, nous, à Montréal, on avait la thématique transport. Et là, c'était mixte. Il y avait des organisations qui représentaient les personnes et il y avait aussi des entreprises. Donc, la COFAN était là le 17 à cette consultation-là sur la thématique transport.
En tant que groupe autonome ou comme membre du Conseil des Canadiens avec déficience?
Non, j'étais là j'étais là au nom de la COFAN.
Okay, bien.
Et le Conseil des Canadiens avec déficience était également présent.
OK. Puis le transport, ça a été choisi au Québec. Il y a eu des investissements importants récemment dans la mise en accessibilité du transport au Québec. Est-ce que il y a d'autres thèmes à travers le Canada qui ont été proposés?
Oui, absolument. En fait, c'était un peu, bon, j'imagine qu'il y avait quand même des raisons pour lesquelles les thématiques ont été attribuées aux différentes provinces, là, mais il y avait, pour chaque consultation, il y avait une différente thématique. Donc, il y en a eu une sur l'environnement bâti, il y en a une qui aura lieu à Ottawa sur le changement de culture.
Ah oui.
Il y en avait, oui, c'est ça, sur pas mal tous les sujets que la loi va pouvoir toucher.
OK.
Et ben, c'est ça, c'était dans les différentes provinces, là.
OK. Mais modérons pas nos transports. Parlons transport, donc. Ce comité auquel vous avez participé, évidemment, ici, c'est un sujet très sensible. Qu'est-ce qui en est ressorti de ces tables rondes d'experts?
Ben moi j'ai été quand même agréablement surprise là de la rencontre. T'sais, moi j'avais c'est sûr que je m'en allais là puis j'avais l'impression qu'il y allait avoir un peu deux clans là les organismes et les entreprises.
Oui.
Mais les entreprises ont fait quand même savoir en fait ils ont fait connaître leurs préoccupations et souvent, tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui sont de mauvaise foi, mais qui, surtout au niveau de l'aviation,
Oui.
qui ont à composer avec différentes réglementations au niveau de la sécurité, différentes normes de conception aussi, même au niveau de la mécanique, de la construction des appareils, qui fait en sorte qu'ils sont un peu limités dans leur capacité d'action. Et ben, moi, ça, je l'ai vraiment entendu. Mais après ça, c'est de savoir ben, comment justement le gouvernement, cette nouvelle loi-là va pouvoir agir sur les obstacles qu'eux rencontrent dans leur volonté de devenir accessible. Bon, c'est sûr que la volonté n'est pas toujours présente, mais
Ouais.
si on facilite, si on met en place toutes les choses autour pour faire en sorte que se rendre accessible, ça soit possible, mais peut-être que la volonté va être plus présente aussi. Il y a eu également le message que c'était pas toujours facile pour eux de savoir à quelles normes ils devaient se conformer au niveau de l'accessibilité, parce qu'il y en a qui proviennent soit de décisions de la Commission du Tribunal canadien des droits de la personne,
On
d'autres
pense
qui
à Air
proviennent de
Canada et
l'Office
les
des
chaînes. Ouais.
transports. Exactement. Donc, tu sais, il y a une espèce de questionnement là, de est-ce qu'on pourrait pas uniformiser le processus de plainte? Puis ça, c'est quelque chose qui vient aussi de la part des organismes. On aimerait pouvoir porter des plaintes lorsqu'il y a des problèmes qu'on remarque de façon systémique, ne pas attendre qu'un individu porte plainte pour pouvoir l'accompagner, mais en tant qu'organisme, de pouvoir dénoncer en quelque sorte là, des situations d'inaccessibilité.
Donc, ils s'attendent effectivement à ce que ça soit un secteur qui soit bien réglementé, si je comprends bien, ces entreprises-là, ces transporteurs-là.
Oui, bien en fait, c'est déjà commencé, hein. L'Office des transports du Canada a mené une consultation à l'automne par rapport à l'accessibilité. Pour l'instant, c'est une approche volontaire des codes de
OK.
pratique au niveau de
Le milieu
l'accessibilité.
demande-t-il des contraintes?
Oui, et c'est ce vers quoi l'Office des transports semble vouloir aller. Dans le document de consultation qu'il avait soumis, c'était vraiment ça,
OK.
le plus possible d'avoir des normes qui seraient réglementaires.
Qu'est-ce que vous allez faire prochainement? C'est quoi qui est à l'agenda là, pour les prochaines semaines ou les prochains mois?
Par rapport à Canada Accessible, ben,
Bien
plusieurs
sûr.
choses. Ben, et la convention internationale également sur laquelle on travaille, moi je trouve que ça s'imbrique pas mal tous ensemble parce qu'on
Ouais.
veut que la loi canadienne soit un moyen de mettre en œuvre, dans le fond, les obligations du Canada en vertu de la
International,
convention.
ouais.
Oui, c'est ça. Eh bien, ben pour ce qui est de la convention, on est en collaboration avec le Conseil des Canadiens avec Déficience. On rédige un deuxième rapport là, qui est en réponse à des demandes de précision de la part du comité de suivi à Genève. Et ce rapport-là va être étudié de même que le rapport officiel du gouvernement au mois de mars à Genève. Et le comité va adopter des observations finales qui,
OK.
je l'espère, vont guider le Canada dans la rédaction de la loi sur un Canada
C'est
accessible.
important que vous
Et
pointiez mars, par exemple, parce que les consultations actuelles se terminent
en
le
février.
28 février.
Oui,
Donc, est-ce qu'ils
exactement.
auront en main un certain rapport des consultations? Avant de proposer le rapport du Canada.
Ben, je sais pas à quel point. Bon, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement va leur soumettre. C'est sûr que le gouvernement, je pense que c'est janvier la date limite pour
OK.
soumettre un rapport, parce que quand même, avant que le comité se rencontre, il y a des travaux qui se font parce que les comités sont limités dans le temps quand ils se rencontrent là à Genève. Donc,
Ouais.
il y a des gens qui s'occupent de pré-rédiger des rapports qui ensuite sont bonifier et
Parfait.
adopter.
Audrey-Anne, le temps file. Rappelons
oui.
les prochaines rencontres publiques. Le samedi 26 novembre, c'est à Vancouver que les gens peuvent s'exprimer. Le mercredi 30 novembre, c'est à Ottawa. Et rappelons aussi qu'il y aura, après, une table d'experts sur la culture. Hein. On dit souvent que c'est les attitudes qui sont discriminatoires, qui sont difficiles pour les personnes handicapées. Il y a un gros changement de culture à faire et Ottawa va peut-être aider.
oui, exactement.
Les gens peuvent remplir un questionnaire ou plutôt un sondage en se rendant au esdc.gc.ca et donc retrouver aussi toutes les informations sur les manières de participer.
Simplement sur Google, Canada Accessible, c'est le premier résultat qui apparaît également.
Merci de nous offrir l'adresse simple. Audrey-Anne Trudel de la COFAN, au plaisir de vous reparler.
Bien, merci, au plaisir.
Se repérer à l'aide de fabuleuses machines. Miguel Ross, notre chroniqueur techno, présente des utilités. Alors, bonjour Miguel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, combien, c'est la question du jour, combien il y a d'applications GPS au Québec pour se retrouver?
Ah, ben ça, des applications GPS, on en parlerait ici d'applications GPS adaptées?
Oui, adaptées, ben oui, vous faites bien de le préciser. Donc, pour les personnes aveugles.
OK. Donc, effectivement, il y en a quelques-unes. Il y a, entre autres, les applications comme Autour, qui est une application qui fonctionne sur le iPhone.
OK.
Présentement. Et il y a aussi l'application Nearby Explorer qui donne la possibilité d'avoir la carte au travers du Canada et au travers des États-Unis aussi. Et il y a aussi l'application Navigon qui fonctionne sur le iPhone, encore une fois, et qui a la possibilité d'avoir les cartes aussi du Canada, des États-Unis au grand complet.
OK, donc si je comprends bien, pour les téléphones intelligents, le seul qui est utilisable, disons, sur Android ou autre chose que iPhone, c'est Nearby Explorer.
Oui.
OK, mais parce au moins, Nearby, c'est ça l'option.
Le problème des iPhones, c'est que jusqu'à ma mémoire, si vous me corrigerez si je me trompe, mais jusqu'à ma mémoire, jusqu'au iPhone actuel, Apple n'a jamais pensé intégrer de puces GPS dans leurs appareils.
OK.
Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que pour faire objet d'un GPS, ça prend absolument les données mobiles.
OK. Donc, c'est récent dans l'histoire qu'on a ce type d'applications-là, surtout les téléphones. C'est quoi les caractéristiques? En fait, à quoi ça sert aux personnes là, qui nous écoutent ces GPS?
C'est pour se diriger dans la rue, ces choses-là, comme le fameux Tracker Breeze qui a été fait par Humanware, précisément.
Okay. C'est quoi les caractéristiques les plus connues, là, disons, de ceux qu'on a nommés aujourd'hui? Là?
Bon. Autour, évidemment, ça prend les données mobiles, parce qu'évidemment, ça te prend un forfait Internet data pour le iPhone pour que ça fonctionne. Et bien, les caractéristiques, entre autres, qui ont toutes le même point en commun, si on veut, en quelque part, c'est pour se diriger.
Mm-hmm.
Donc, Autour, évidemment, a été axé sur l'adaptation. Donc, évidemment, on est capable de savoir les lieux qui sont proches, les rues qui sont proches, ces choses-là. Sauf que moi, c'est ça. Le point en commun, en réalité, pour ces trois applications-là, c'est la direction. c'est pour se diriger.
Donc, tout le monde peut se retrouver. Puis, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins des différentes options que vous nous proposez?
Bon, les plus, évidemment, quand on a un téléphone Android, bien, si on a la puce GPS, on n'a pas besoin de ce forfait data. Donc, avec Nearby Explorer, on est capable de se diriger dans la ville, vu qu'on a téléchargé les cartes au préalable à l'installation via notre réseau Wi-Fi, bien, on est capable, après ça, de se diriger dans la ville sans problème. Là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un gros plus parce qu'on n'a pas besoin de forfait data, on n'a pas besoin d'utiliser nos données cellulaires pour être capable de se diriger.
Donc, ça coûte moins cher. C'est pas mal ça, l'avantage.
Oui, effectivement, c'est un gros avantage de ce côté-là.
Et Autour et Navigone, est-ce qu'ils ont des plus?
Mais Navigone, moi, ce que je comprends pas, c'est que, justement, ils téléchargent des cartes pour être capable de se repérer, mais il y a absolument besoin des données mobiles pour être capable de savoir où il est.
OK.
Ça, j'avoue que c'est un détail que je ne comprends pas.
Ben, il faudra le réécrire.
Sincèrement, je me dis, tu as une carte pour te diriger. Ben, en réalité, oui. En réalité, on pourrait dire que c'est un détail que je comprends, parce que comme il n'y a pas de puce GPS, il se réfère avec quoi?
OK.
Donc, c'est ça, en réalité, l'affaire. Donc,
mais on sent déjà un peu votre préférence, mais vous, qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui nous écoutent?
Mais moi, ce que je recommande, s'ils veulent vraiment un GPS sans données mobiles, sans rien, bien, c'est de s'acheter une tablette, s'assurer que la tablette a une puce GPS dessus. Mm-hmm. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller chez un fournisseur de cellulaire pour s'acheter un téléphone. Et évidemment, bien, avec Nearby Explorer qui coûte 104 $, donc si on fait un calcul, une tablette avec une puce GPS, ça pourrait aller à peu près dans les 300 $ avec mm-hmm. taxes, mettons 350. Puis si on rajoute 104 $ de plus, bien, on arrive à 454 $, ce qui fait quand même un GPS abordable comparativement au Breeze qui vaut à peu près 1000 $.
Ah oui. Ah ben c'est important comme différence. C'est du double.
Il y a
double.
Une grosse différence. Et puis, à ce moment-là, ben, en ayant cette application-là, ben, on est capable de se diriger. Puis même, j'ai vu des avantages par rapport au Breeze. On est capable de savoir, quand on arrive à tel coin de rue, à combien de mètres qu'on est face au coin de rue.
Ah oui.
On est capable de savoir, mettons, OK, telle rue arrive là d'ici 160 mètres, d'ici 80 mètres. Fait qu'on sait déjà à peu près à combien de mètres qu'on est face à tel coin de rue.
Parfait. Ben écoutez, merci de cette recommandation, Miguel Ross.
Ben, ça fait plaisir.
Ah, donc, on se reparle bientôt. Merci à notre chroniqueur techno.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Chaque année, le regroupement d'organismes en loisirs, culture et sport montréalais, Altergo, propose des prix à des organismes qui se démarquent, donc remet des prix plutôt à des organismes qui se démarquent. Et on accueille aujourd'hui trois récipiendaires. D'abord, le Centre communautaire Radisson, qui s'est vu remettre le prix Développement Raymond Bachand. Donc avec nous, la dynamique Joanne Harvey. Bonjour, Joanne.
Merci. Bonjour, Benoît. J'espère que ça va bien.
Ça va super bien, surtout que tu as un bel air d'aller avec ce prix.
Oui, c'est vraiment une belle reconnaissance. On est super fiers.
Bien, on est bien content de vous l'entendre dire, puis on est content de vous avoir de nouveau à la station. Mm-hmm. Donc, avec nous aussi, la gang à Rambrou, qui a reçu le prix Innovation Guy Langlois. Donc, la directrice de la gang, Suzanne Beaulieu, est devant moi. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, désolé, faut que je me mette sur la bonne personne, parce qu'on a quelqu'un au téléphone, deux personnes en studio, vous voyez, des fois, je deviens TS, TDAH. Mais donc, le prix Création Mon Rêve vous a été remis finalement, a été remis à regroupement trisomie, pardon, 21.
C'est la gang à Rambrou.
Ah, c'est la gang à Rambrou. Bon. OK, ben ça va bien, hein? Une chance que j'ai repris mes papiers, ça m'aide pas du tout, du tout.
Et ben, donc... Nous, on a reçu le prix Innovation Guy Langlois.
Oui. Et nous, c'est le prix Création Mon Rêve.
Bon, et donc, c'est vous qui avez proposé une super... je parle en ce moment à Geneviève Labrec. Donc, vous avez proposé une super présentation théâtrale multidisciplinaire.
Exactement.
Et ça a été souligné par ce prix. Bon, on va y arriver. Avant d'en jaser davantage avec vous de ces prix que vous avez reçus, est-ce que vous diriez, là, à vous toutes... que vous travaillez dans le domaine de la culture ou du loisir?
Bien, en fait, nous, dans notre cas, au regroupement pour la trisomie 21, on travaille sur tous les plans et on a une activité en culture qui est l'activité lundi théâtre.
Donc, c'est une activité
comme
d'autres.
Parmi tant d'autres, exactement.
OK. Si je m'adresse...
Donc, nous, pour le Centre communautaire Addition, je dirais que nous, on travaille plus en éducation populaire, développement de la citoyenneté. Pour nous, le loisir, c'est un outil pour accéder à un plus grand développement personnel et social. Et dans ces différents outils-là, il y a toute la participation sociale et le loisir et la culture.
Donc, c'est une dimension, c'est un outil.
Oui.
Et vous, qu'est-ce que vous diriez?
Un peu de tout. Nous, on travaille, on a un programme d'intégration au travail, on a des programmes de théâtre, chant, musique, danse et des programmes dans l'art visuel. Et dans le fond, on œuvre dans le milieu de la culture et du loisir, mais pour permettre aux gens de se développer.
Donc, vous avez ça en commun. Le loisir, la culture, c'est au service de la participation sociale des personnes avec qui vous travaillez.
Exactement.
Oui.
Exactement, oui.
La gang à Rambrou, je me demandais, Suzanne, vous avez reçu le prix Innovation Guy Langlois et pour l'atelier de fabrication d'instruments de musique, donc avec des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Qu'est-ce qu'ils ont particulier, ces instruments?
Ils sont créés à partir d'objets qu'on recycle.
Mm-hmm.
Alors, le premier instrument qu'on a recyclé, c'est un accordéon. Avec l'accordéon, on a récupéré les petites flûtes intérieures et on en a fait des flûtes individuelles. C'est en fabrication en ce moment.
Okay.
On a une machine à coudre Singer qui date des années 1900.
Oh mon Dieu, c'est une antiquité, là.
Oui, et on veut la transformer en appareil musical.
Okay. Qu'est-ce
qu'on veut que quand on tourne la roulette ou qu'on active la pédale, qu'il se passe des sons? Alors, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Je ne le sais pas encore.
Mais donc, c'est vraiment une création
où
les personnes sont complètement parties prenantes du résultat. Là.
Oui, ils essaient. Démonter l'accordéon, ça leur a permis de voir comment le son arrive et comment il peut se fabriquer.
OK, donc alors, même de l'éducation le biais de cette activité-là.
Ouais.
Et puis, on me dit que Edith Butler a été une inspiration.
Oui.
Pourquoi?
Parce que notre prochain spectacle va porter sur Edith Butler,
okay,
les Canadiens, les Acadiens et la résilience des Acadiens à garder leur langue, leur culture. Et on la compare à la même résilience des personnes handicapées qui essaient de s'inclure dans la société, qui essaient de démontrer qu'ils ont des talents et puis ils peuvent contribuer sainement à la vie communautaire.
C'est important qu'on le dise. En fait, on l'entend, là, vous mettez les personnes qui ont des limitations fonctionnelles au cœur de votre projet. Et d'ailleurs, le prix qu'on vous a offert, c'est aussi pour reconnaître cette écoute-là à l'égard des besoins des personnes. Est-ce que je comprends bien? C'est quoi le prix Innovation Guy Langlois?
Oui, mais je vous dirais que nous, on est plus à l'écoute de... Moi, je suis fière parce que c'est eux qui l'ont remporté, ce prix-là.
Ouais.
C'est eux qui acceptent d'innover, c'est eux qui acceptent de participer à des projets qui vont les mettre en valeur. C'est eux qui se développent là-dedans. Alors, s'ils n'étaient pas là, on n'existerait pas.
Oui, et donc, vous avez l'humilité de dire que ce prix-là leur appartient.
C'est pour eux, oui.
Ouais. Bien, content de l'entendre. Le Centre communautaire Addison, il y a Mme Harvey et beaucoup de monde qui y sont. Vous avez remporté le prix de développement Raymond Bachand pour la diversité de votre offre de services et la vision. C'est quoi la vision du Centre communautaire Addison, Jean Harvey?
En fait, nous, on a une nouvelle vision. On a développé, il y a un an et demi, on avait fait tout un processus de planification stratégique à travers laquelle on avait consulté quand même au-dessus de 100 personnes, dont 50 membres, et où nous avions actualisé un peu notre mission, nos valeurs, notre approche et tout ça. Et dans ce cadre-là, on a mis sur pied une nouvelle approche qu'on appelle l'approche E3.
Okay.
E exposant 3, là.
Oui.
Donc, qui est en fait un nouveau modèle d'intervention qui met en interrelation trois dimensions particulières, trois approches particulières, qui sont l'éducation populaire, l'empowerment et l'entraide.
Mm-hmm.
Donc, l'idée, c'est de travailler avec les gens pour créer un milieu de vie, pour permettre aux gens vraiment de pouvoir avoir une plus grande, une meilleure intégration, se réaliser une meilleure intégration, participation sociale et devenir vraiment des citoyens actifs.
Mais
donc,
si je peux me permettre, Johan...
C'est un virage assez important au
si
niveau...
Si je peux me permettre, Johan...
De notre façon de faire.
E3, c'est tout à fait...
On s'est impliqué un peu partout à Montréal et sur différents lieux, dans différentes activités. C'est la raison pour laquelle on nous a donné ce merveilleux prix de Marie-Montbachan.
Bon. Écoutez, félicitations. En fait, j'avais envie de vous dire, c'est une formule E3 très sexy, nouvelle, mais moi, je trouve que vous revisitez des choses qu'on perd et qu'on avait peut-être un peu perdu. Cette idée d'empowerment, cette idée d'entraide entre les gens et surtout d'éducation, j'oserais dire, à la citoyenneté. Est-ce que vous trouvez que dans votre domaine, on y pense, on revient à ça de plus en plus?
Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup, au niveau de l'approche de loisir et tout ça, des fois, il y a des gens, on a tendance à aller beaucoup vers l'occupationnel. On a eu tendance, au niveau institutionnel, à aller beaucoup vers des activités à caractère institutionnel. Alors que nous, comme groupe communautaire, on a choisi de revenir aux valeurs de base qui permettent aux personnes de se réaliser.
Mm-hmm.
Donc, et les gens en redemandent, c'est vraiment d'aller vers vraiment l'éducation populaire. C'est vraiment d'accompagner.
Mais avec quoi vous faites ça? Parce qu'on entend votre projet, mais avec quoi vous le faites exactement, cette éducation à la citoyenneté?
On le fait avec différents outils. D'abord, pour nous, l'important quand on parle d'empowerment, c'est de permettre aux gens de développer leur capacité d'agir et d'abord leur capacité de réflexion.
Mm-hmm.
Donc,
leur autonomie.
C'est important de prendre le temps avec les gens, de vraiment les informer, les outiller, les aider à développer leur capacité d'analyse des enjeux sociaux,
mm-hmm.
puis de prendre conscience que les gens, les personnes handicapées, elles sont partie prenante de la société, puis elles peuvent agir à l'intérieur de cette société.
Mais j'entends bien votre projet, mais comment vous le faites dans les faits? Comment les gens peuvent prendre la parole citoyenne, par exemple? Comment ils apprennent un peu mieux comment le monde se fait autour d'eux?
En fait, nous, à chaque fois que les différentes instances de décision publique, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, ou les différents acteurs sociaux les groupes communautaires, syndicaux et tout ça, invitent les gens à prendre la parole pour donner leur opinion en tant que citoyens. Nous, vraiment, accompagnons les gens pour leur permettre de participer activement,
okay.
que ce soit des actions citoyennes, des consultations,
des manifs même, des manifs.
Participations, comme actuellement, il existe au niveau canadien différentes... il y a une consultation qui existe sur l'accessibilité.
Ben oui, on vient tout juste d'en parler d'ailleurs.
L'accessibilité, en fait, aux services canadiens, aux mm-hmm. services publics canadiens. Donc, nous autres, on va vraiment faire en sorte que les gens puissent prendre part s'il y a des consultations
parfait.
Publiques, des sondages.
Johan Harvey, le temps coule. On entend parfaitement bien tout ce programme d'activité, cette vision aussi que vous avez déployée. Bravo pour ce prix reçu. On rappelle que le Centre communautaire Radisson a reçu le prix...
Marie-Montbachan.
Merci. J'ai toujours un peu de misère avec des certains noms de ministres. Enfin, donc, je suis désolé, c'est comme ça, je peux rien. Le regroupement pour la trisomie 21,
oui.
Madame Geneviève Labrecque, donc, vous avez remporté le prix Création, mon rêve.
Exactement.
On n'a pas beaucoup de temps, mais dites-moi, c'est quoi ce spectacle qui vous a permis de recevoir ce prix?
En fait, depuis 7 ans, on collabore avec la Joe, Jack et John, qui est une compagnie de théâtre vraiment spécialisée à la création avec des personnes qui ont une différence, soit qui ont un handicap, une déficience intellectuelle ou des personnes qui sont immigrantes. Mm-hmm. Alors, depuis 7 ans, on collabore avec eux à la création d'un spectacle une fois par année. Et les, un peu comme Joanne disait, nous aussi, les personnes qui ont une trisomie 21 sont partie prenante de la création du spectacle. Alors, à l'automne, ils vont recevoir plein de personnes qui vont venir leur présenter plein de sortes d'ateliers, par exemple un mime, un clown, ils ont des musiciens. Et suite à ça, ils vont créer, à partir du mois de janvier, une pièce de théâtre qu'ils vont présenter à la fin du mois de juin. Grâce à le prix Création Mon Rêve qu'on a reçu, nous, ça nous donne la possibilité de présenter notre pièce dans une maison de la culture, sur la maison de la culture Frontenac, en octobre 2017, dans le cadre du mois d'accessibilité universelle. Alors, on va faire 2 présentations dans une belle maison de la culture.
En 2017, ça,
en 2017, ça? Oui. Ouais. On a un an d'avance, c'est parfait, parce qu'on va passer l'an janvier en création.
Les gens sont fébriles chez vous à cette annonce-là?
Ils sont toujours contents de faire du théâtre. C'est tellement une belle sensibilisation. Et nous, on ne leur met pas de limite dans leur création. Donc, c'est un cours, c'est vraiment une formation. C'est des enseignants en théâtre qui sont là, mm-hmm. qui leur donnent des trucs, des conseils, des façons de poser la voix, de s'exprimer en public. On voit énormément de potentiel chez des jeunes. Et on a même dans notre troupe des jeunes qui sont non-verbaux, mais qui sont capables de faire du théâtre parce qu'on croit en eux, puis on leur donne des rôles. Et au fil du temps, depuis 7 ans, on a une jeune fille qui maintenant parle un petit peu dans le théâtre. Fait que c'est extraordinaire.
Donc, c'est vraiment porteur, là. Comme on le disait plus tôt, c'est la pratique artistique, mais c'est aussi la possibilité de se réaliser, là.
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on travaille aussi de l'orthophonie. Ouais. On travaille l'aisance à parler en public, on travaille la présentation, l'expression corporelle. C'est tous des choses qui vont les aider dans leur participation sociale, aussi d'être inclus un peu plus sur le marché du travail. Donc, à partir des activités de loisirs, on peut travailler des aspects importants de la personne au grand complet.
Donc, vous travaillez avec des personnes, vous travaillez de près avec ces personnes. Félicitations
Merci.
À vous.
Merci.
Et je veux juste vous redonner, rappeler aux gens qui vous êtes, donc le Centre communautaire Radisson avec Joanne Hervé. Merci beaucoup. Bravo.
Merci, merci Benoît.
Il y a la gang à Rambrou et sa directrice, Suzanne Labrecque, c'est
Beaulieu.
Ça? Beaulieu. Ah, ça va pas
Geneviève
bien.
Geneviève Labrecque.
Et Geneviève Labrecque avec le regroupement Trisomie 21. Merci de votre indulgence.
Pas de problème. Moi, je tiens à remercier beaucoup Altergo d'avoir cette initiative-là, nous donner des prix, parce que c'est vraiment important d'être reconnu par ses pairs. Ça nous donne un petit coup de pouce, mais un beau velours.
Ça fait du bien et on peut retrouver d'informations d'ailleurs sur le site d'Altergo ou encore sur vos sites web respectifs. On donnera tous ces liens-là sur notre page sur le site de l'émission Canal M.
Moi, j'aimerais remercier...
Non, allez-y.
Moi, j'aimerais remercier notre partenaire, le Centre Paul Graton, Fred Péloquin, qui est un professeur prêté par la commission scolaire qui donne l'atelier aussi de la fabrication d'instruments de musique. Fred est un musicien.
Bien, que les artistes embarquent dans vos projets.
Exact.
C'est génial. Bien, on vous retrouve sur le web.
Merci.
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 S'enfile devant vous. Le ciel est trop noir qu'une grande toile voile les étoiles. Doucement mon corps s'apaise et s'endort pendant que je rêve au jour qui se lève.
Avec nous, Marie-Claude Lépine, et elle a été précédée d'un jour doré, rien de moins. Donc, bonjour Marie-France Lépine.
Marie-Claude.
Oh, Marie-Claude.
Bonjour Benoît.
Ben oui, en fait, elle slam, elle inspire aussi par la communication. Elle va nous présenter, entre autres, son spectacle-conférence, La vie, la subir ou la créer. Donc, ce titre-là, ça vient d'où?
D'où ça vient? Ben en fait, c'est parce que moi, je me rends compte souvent que les gens s'apitoient sur leur sort et subissent leur vie.
Ah ouais.
Alors que moi, tout au long de ma vie, depuis ma tendre enfance, j'essaie de créer ma vie.
Ouais.
Et j'avais envie d'inspirer les gens à voir les choses de cette façon-là.
Et donc, vous y arrivez puisque vous roulez
oui.
votre bosse depuis un moment.
Oui.
Les gens vous reconnaissent comme conférencière, mais aussi comme slameuse.
Oui, exactement. Ouais. J'ai commencé à faire du slam en 2011
mm-hmm.
et j'ai fait quelques compétitions. Entre autres, j'ai participé à la compétition provinciale de slam en 2011 et j'ai coaché le champion du monde, David Goudreau, en 2012.
Donc, coach sur plusieurs tableaux?
Oui.
Presque.
Oui.
Donc, vous vivez depuis la naissance avec une amyotrophie spinale.
Oui.
Vous invitez dans vos messages, dans vos conférences, à vivre au-delà du handicap. C'est ce que vous nous dites au fond.
Oui, exactement. Ouais, parce qu'on est plus qu'un handicap. On est plus que nos fragilités. On est des forces, on est des êtres.
Mmh.
Et avec des capacités et un rôle à jouer sur Terre.
Et vous avez un parcours incroyable, mais est-ce que vous trouvez que vous êtes favorisé par rapport aux autres personnes en situation de handicap qui le sont depuis la naissance?
Favorisé, dans quel sens vous voulez dire?
Ben, je ne sais pas. En fait, vous avez un parcours,
oui, okay.
Vous avez beaucoup de possibilités.
Oui.
Ben, vous les prenez, bien sûr.
Mais exactement. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours regardé ce que j'étais capable de faire.
Ouais.
Et j'ai toujours axé là-dessus. Et c'est en ça que je suis privilégiée, mais ça, je pense que tout le monde a ça.
Okay.
Tout le monde peut
développer. Vous croyez que tout le monde est favorisé?
Ben, oui, parce
ouais.
que tout le monde a des forces.
Mm-hmm.
Il faut juste les voir et travailler avec.
Ouais.
Moi, ma force, ben, c'est entre autres la communication, mais il y en a d'autres que ça peut être le dessin.
Ouais.
Juste un regard d'amour peut changer les autres aussi. Là.
Mm.
Même si on n'est pas capable de parler... juste regarder, comme je disais, avec amour, ça apaise les gens
ouais.
et ça les remet sur ce qui est essentiel.
OK. Vous êtes une travailleuse de l'essentiel.
Oui.
C'est ce que j'entends souvent dans ce que vous dites. Vous donnez des conférences spectacles aussi.
Oui.
Il faut le rappeler, vous n'avez pas juste un message. Vous le faites avec toutes sortes d'art, toutes
oui.
sortes de modes d'expression.
Mm-hmm.
Vous mêlez même des personnages.
Oui.
Mais dites-nous un peu plus, ça ressemble à quoi, un spectacle, okay. conférence de Marie-France Lépine?
J'invite les gens à vivre une aventure de nouveaux regards. Donc, à travers mes expériences de vie, à travers, moi, j'amène les gens, je les amène dans mes voyages, je les amène dans mon intimité, dans l'intimité de ma chambre, dans mes pensées, et je leur partage mes lunettes pour qu'eux puissent voir la façon que moi je vois et intégrer ce regard-là à leur propre vie par la suite.
Bien, d'ailleurs, si on croise un peu YouTube où il y a des extraits de vos conférences,
oui.
on le voit, ce numéro-là, avec les lunettes
oui, exactement.
Qui changent le regard. À qui vous vous adressez, Marie-Claude Lépine?
Je m'adresse aux gens qui veulent aller plus loin, qui veulent se dépasser, qui veulent être mieux avec soi-même et qui veulent essayer d'avoir une vie meilleure.
Est-ce que vous parlez beaucoup aux personnes en situation de handicap?
Cette conférence, ce spectacle-conférence-là, ça s'adresse à tous, mais je crois que les gens qui sont en situation de handicap étant donné que moi, je le suis aussi, ils se sentent encore plus touchés et rejoints.
Oui. Ils s'identifient à vous, peut-être?
Oui, ils s'identifient, oui. Mm. Et malheureusement, j'ai donné quelques fois mes présentations devant ces gens-là, mais pas assez à mon goût.
Ouais. Donc là, est-ce que c'est peut-être un moyen particulier? Vous venez chez nous, vous travaillez avec Clotilde Seille,
oui.
Qui est animatrice ici.
Ben oui, puis exactement, je suis contente que vous en parlez parce que Clotilde va animer ma présentation. C'est elle qui va me présenter et à la fin, il va y avoir une période d'entrevue et de questions et c'est elle qui va me poser des questions et interagir avec le public aussi. Hein.
Donc, en somme, là, vous êtes en train de le dire. On parle, bien sûr, de votre conférence spectacle que vous donnez le 1er décembre prochain à Mascouche avec Clotilde Seille en entrevue, en deuxième partie, si on peut dire.
Exactement, c'est ça. Oui.
Et donc, on entend ce que vous proposez. Vous ne m'avez pas encore trop dit s'il y aura des surprises là, à cette rencontre-là. Est-ce qu'il y en aura?
Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des surprises. Moi, sur scène, je suis une artiste, donc on peut me voir avec peut-être un petit costume assez rigolo.
OK. Oh,
ouais.
Un seul?
oui, un seul quand même.
OK. Mais puis, est-ce que vous slammez encore? Est-ce que vous l'utilisez?
Oui, sur scène, je vais faire deux slams, deux de mes très bons slams. Et ben c'est ça, comme vous l'avez dit, il va y avoir un personnage.
Ouais.
Ce personnage-là est porteur de lunettes qui sont, je dirais, un peu embuées.
Ouais.
Et moi, j'ai une interaction avec cette personne-là pour essayer de lui faire changer lunettes.
Ouais. Mais je veux pas vous faire ça parce qu'on n'en a pas discuté, mais vous avez pas envie de nous donner quelques moments que vous avez dans votre conférence, peut-être un bout?
Oui.
Peut-être.
C'est
drôle. C'était absolument pas prévu, hein?
Non,
faut le dire.
Hier, j'ai pensé, peut-être que Benoît va me demander de faire un petit bout. J'ai pas trop pensé, mais il y a quelque chose qui me vient en tête.
OK.
C'est sûr que... Ah oui, je vais juste vous mettre en situation là. À ce moment-là, je porte des lunettes et parce que je m'en vais en voyage.
Donc, on écoute Marie-Claude Lépine.
C'est sûr que toute seule, je peux pas rien faire. Ah, j'ai pas toutes les forces, je suis pas une surhumaine, mais j'ai des forces que les autres ont pas aussi. Les autres ont des forces que j'ai pas. Et si on se mettait ensemble? Si chacun mettait au profit des autres ses talents, ses forces et ses capacités, ben, il n'y en aura pas de limite. Et c'est avec ces lunettes-là que je suis partie avec mon sac à dos au Nicaragua.
Wow!
Et je parle de cette expérience-là dans ma conférence.
Ah, merci pour la générosité pour ce moment-là. Le Nicaragua, vous vous en rappelez encore? Est-ce que ça a marqué votre vie?
Ça a marqué, c'est sûr. C'est une culture tellement différente de la nôtre. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est... pour eux, il n'y en avait pas de problème. Moi, avec mon fauteuil, je prends de la place dans les transports. Et là-bas, ben, ils poussent tout le monde, ils me font une place, il n'y en a jamais de problème. Ils plaçaient mon fauteuil roulant sur le toit de l'autobus. On se tassait vraiment. J'ai trouvé là-bas, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils s'organisent avec ce qu'ils ont et ils sont très généreux.
Oui, il y avait beaucoup de chaleur.
Oui.
Vous venez de là, en fait. Vous souhaitez en donner aussi, de la chaleur.
Oui, ben oui, c'est sûr.
Ouais. D'ailleurs, au-delà de la chaleur, il y a aussi parfois le socio-financement.
Eh oui!
Donc, pour vous aider à développer, à continuer de développer et offrir cette conférence-spectacle, il est possible de retrouver Marie-Claude Lépine Crée sa vie, sur Tipeee.
Oui, exactement. T-I-P-E-E-E.
Et d'ailleurs, il est possible de voir de manière générale vos projets sur le web en visitant marieclaudelépine.com.
Exactement.
Pas d'accent.
Pas d'accent, pas de trait d'union, pas d'espace.
Mais vous avez tout l'accent qu'il faut pour nous donner envie de continuer puis d'être inspiré et de l'être aussi. Hein?
Ben, merci beaucoup, Benoît, de me donner la tribune comme ça.
Ben, merci, Marie-Claude Lépine. Et on rappelle d'ailleurs que Vous serez le 1er décembre à Mascouche en compagnie de Clotilde Seille en deuxième partie d'émission, animatrice ici à Canal M. Et j'avais envie de pas qu'on se quitte comme ça. Il faut remercier tous les invités qui étaient avec nous. Donc, il y avait Nathalie Thibault de Vision Carrière, hein, le travail pour tout le monde.
Ben oui.
J'ai presque envie de vous faire co-animatrice, Marie-Claude Lépine.
ça
serait bon dans mon
Mais
émission.
Oui.
Mais donc, aussi Audrey-Anne Trudel de La Cofane, Miguel Ross, notre chroniqueur techno. Sans oublier, il faut féliciter ces organismes récipiendaires du prix remis par Altergo dans le domaine de la culture et du loisir, mais si on regarde bien, pour aider la participation sociale, on remercie donc l'Orgue Trisomie 21, le Centre communautaire Radisson, la gang Arambrou. Merci particulier à l'équipe aussi aujourd'hui, Christiane Campagna en communication, Maurice Bolduc à la mise en onde, c'est Benoît Racette. Donc, on arrive à la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continuez de vous ajouter au débat. Ben, un jour, on fera ensemble un véritable accès libre. Mmh.